le monde d'aujourd'hui et préparer celui de demain, un défi auquel France Inter s'associe aux côtés du CIDACTION.
À retrouver dès 15h.
En savoir plus,
franceinter.com.
Demain sur France Culture à 18h30.
Station Météo.
Florian Delorme, en compagnie d'Alexis Patovtsev et de plusieurs invités, proposera de dresser une météorologie de la crise.
Pour mieux appréhender la dépression que traverse le monde.
À écouter, réécouter et podcaster sur franceculture.com.
Et demain dans le Move à 19h.
Planète Interdite.
Rejoignez Christophe Prenel pour faire le point sur l'actualité du rock et les dernières nouveautés.
Le rendez-vous incontournable de l'actualité du rock.
En savoir plus, lemove.com.
Radio France.
Radio France.
On ne se quitte plus.
Vous écoutez France Culture, il est 9h passé de 6 minutes. On retrouve la fabrique de l'histoire avec Emmanuel Laurentin. Bonjour.
Oui, bonjour Antoine Marette. Merci pour ce journal. Prochain journal de rédaction 12h30, comme tous les jours sur notre antenne. Et tout de suite, nous allons nous intéresser, nous aussi, à l'actualité vue par des historiens. L'actualité de la révolte ou des manifestations universitaires ces temps-ci, c'est-à-dire depuis le mois de février. Actualité donc dans la fabrique de l'histoire, au lendemain de la grève et des manifestations qui ont vu défiler également des universitaires, des chercheurs et des étudiants, nous avons décidé de nous arrêter sur le mouvement qui touche depuis au moins 6 semaines bien des universités françaises, un mouvement aux revendications multiples, mal comprises, peut-être parce que mal expliquées par les acteurs eux-mêmes quelquefois, mais aussi par les médias, difficilement compréhensible au premier abord, que nous allons aborder donc dans tous ces aspects ce matin, ou bien des aspects ce matin avec une partie de l'équipe de la fabrique de l'histoire, mais un mouvement aussi qui a tenté d'inventer, d'innover, de renouveler les modes d'action pour faire tomber certains des a priori dont sont l'objet ces disciplines du savoir et ces universités. Pour en parler avec nous, Christophe Charles de l'Université de Paris 1, Isabelle Launay qui sera avec nous en deuxième partie de cette émission, elle est professeure à l'UFR d'art de Paris 8 en histoire et esthétique de la danse. Daniel Tartakovsky, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 8 également, et Jean-Philippe Legois de la Cité des Mémoires étudiantes, un lieu qui se propose justement de travailler sur la différente mobilisation et histoire étudiante depuis le début du siècle. Un peu de pédagogie ne nuisant pas tout à fait, eh bien nous avons décidé de commencer cette émission avec vous, Amélie Meffre. Amélie, vous faites régulièrement, très régulièrement dans la Fabrique de l'Histoire, une chronique qui s'intitule « Un saut dans la loi » qui a pour propos de repartir un peu plus loin, à propos de décisions législatives actuelles, de décrets ou de lois donc qui sont débattues dans la société, de revenir à une source plus lointaine. La source n'est pas si lointaine, elle a 40 ans, en l'occurrence, pour traiter de cette question des universités, de la loi les rues sur les universités, dites loi Pécresse, eh bien vous avez décidé de revenir à la loi universitaire du 12 novembre 1968, qui comme toutes les lois sur l'éducation porte le nom de celui qui l'a portée, dite loi Edgar Faure. Voilà. Amélie.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. Alors revenons quelques mois en arrière, hein, avant que les étudiants ne fassent voler les pavés et contraignent le gouvernement à élaborer la loi universitaire justement du 12 novembre 1968. Bon, il faut savoir que durant les 10 premières années de la 5e République, le nombre d'étudiants a été multiplié par 2,5. Se pose alors la question d'une réforme de l'université. Comme le note Dominique Damam dans mai-juin 68 qui est paru l'an dernier, il faut soit préserver la fonction culturelle de l'enseignement supérieur, soit développer les formations professionnelles. En d'autres termes, il faut soit réserver l'université à une élite du mérite, soit se résoudre à un enseignement de masse destiné à former des cadres moyens. Enfin, quoi qu'il en soit, l'université est de moins en moins diplômante, compte tenu de l'afflux de candidats aux examens. Ainsi, Alain Perfit, alors ministre de l'Éducation, se dit très préoccupé par les résultats du système universitaire français, comparé notamment à la Grande-Bretagne. En gros, avec 2 fois plus d'étudiants, il fournit 2 fois moins de diplômés. Charles de Gaulle entend promouvoir l'orientation et la sélection à l'entrée de l'université pour remédier à cet état de fait. Le projet de loi présenté en Conseil des ministres le 24 avril 1968 va dans ce sens et préconise, je cite, que l'inscription automatique interviendra dans la voie choisie pour la moitié environ ou les deux tiers des bacheliers, soit ceux qui ont obtenu une mention, plus ceux qui ont obtenu 12 sur 20 dans les disciplines fondamentales de la voie choisie. Pour les autres, le droit à l'inscription ne sera pas automatique. L'examen du projet de loi est inscrit au programme de l'Assemblée nationale pour la mi-mai, mais évidemment, la
Fronde... Mais 68, il y a quelque chose qui va faire détourner le cours de ce texte.
La Fronde des étudiants va obliger le gouvernement à changer, si j'ose dire, son fusil d'épaule. Donc après les événements de mai, Edgar Faure est nommé ministre de l'Éducation et élabore un projet de réforme qui va surprendre la classe politique. Il va le surprendre parce que dans la mesure où il va à l'encontre du projet de loi initial, en intégrant notamment des revendications de mai 68, et notamment la participation à la gestion des établissements de tous les acteurs de l'enseignement. Mmh. Le 10 octobre 1968, la loi sur l'enseignement supérieur est votée, aussi bien à gauche, enfin les communistes s'abstiennent quand même, qu'à droite. Promulguée le 12 novembre, elle marque donc une rupture dans l'enseignement français. L'article 1er de la loi déclare ainsi « Les universités doivent concourir à l'éducation permanente à l'usage de toutes les catégories de la population et à toute fin qu'elle peut comporter. » En d'autres termes, exit la sélection tant décriée, voulue par De Gaulle. À propos de l'autonomie administrative, l'article 13 stipule que les conseils sont composés dans un esprit de participation par des enseignants, des chercheurs, des étudiants et par des membres du personnel non enseignant. À la tête des universités, il y a désormais des présidents qui ont une toute autre stature que les doyens de faculté qu'on connaissait avant. Ils sont élus pour 5 ans et dotés d'une administration étoffée, comprenant un secrétariat général, des services financiers, les présidents d'université ont de véritables pouvoirs. La loi Faure met en place donc une autonomie budgétaire aussi, qui va être modifiée là.
Aujourd'hui par la loi LRU justement, qui est modifiée par la loi LRU.
Exactement. Et puis surtout, la grande avancée donc, on l'a dit, de la loi de 68, et la redistribution du pouvoir universitaire. Alors que les conseils d'administration étaient jusqu'alors cantonnés aux professeurs et assimilés, les maîtres assistants et les étudiants en font désormais partie. Et c'est ce qui est notamment remis en cause aujourd'hui par la loi LRU. La part minimum des étudiants, par exemple, passe de 20 à 10%. C'est ce qui explique peut-être, Emmanuel, la teneur des slogans placardés dans les cortèges parisiens d'hier, comme celui-ci. Au rage, au désespoir, au Pécresse ennemi.
Oui, alors, on parlera justement de ces inventions langagières autour de ce mouvement de manifestation depuis 7 semaines au minimum. Il faut signaler donc en complément de votre papier sur cette loi Faure de 1968, un article en ligne de l'historien Claude Lelièvre sur Mediapart et son ouvrage donc L'école des présidents de Charles de Gaulle à François Mitterrand aux éditions Odile Jacob. C'était en 1991. Il y a aussi un autre acquis de cette loi Faure, c'est la création de deux universités nouvelles. L'une a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps, c'est la vôtre, Daniel Tartakovsky, Paris 8, qui s'appelait Vincennes et qui s'appelle maintenant Vincennes à Saint-Denis. Je ne sais pas si on dit encore Vincennes à Saint-Denis.
On dit
Vincennes à Saint-Denis, donc, après le déménagement des années 80. Et puis l'autre, c'est la création de Dauphine, donc tout autre type d'université, effectivement. Deux universités qui se voulaient à l'époque donc innovantes. Dauphine, donc, installée du côté de l'avenue Foch à Paris. Paris et qui fête la semaine prochaine son 40e anniversaire. Ça, c'est les deux innovations de la loi de la loi Faure, Daniel Tartakovsky.
Tout à fait, et d'une certaine manière, c'est les deux images du mouvement de mai. Enfin, ce sont les deux héritages de mai. Edgar Faure crée une loi qui ouvre des espaces du possible. Il y a plusieurs possibles qui sont issus d'un même mouvement.
Oui, parce qu'il faut dire qu'effectivement, l'université de Paris-Dauphine est une université qui sélectionne, alors que l'université de Paris 8 était une université qui ne sélectionnait pas.
Mais il faut quand même ajouter que dans les deux cas, il s'agit de mettre en place des formations innovantes dans le domaine de la gestion et de l'administration. Sous d'autres formes que l'ENA et pour répondre à d'autres fonctions, et dans le domaine des sciences humaines, s'agissant de Paris 8, mais dans les deux cas, il s'agit bien d'universités expérimentales.
Est-ce qu'il est utile, Christophe Charles, vous êtes avec nous au téléphone et vous avez travaillé avec une association qui s'intitule La Réserve depuis longtemps sur la question de la façon dont évolue la sélection à l'université, la vision de l'université dans la société française, surtout vu du point de vue des gouvernements successifs que nous avons connus depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Est-ce qu'il est utile de revenir à 68 pour mieux comprendre ce qui se passe ces temps-ci avec cette nouvelle loi LRU dont on parlera tout à l'heure?
Oui, je pense qu'il y a une espèce de... D'ailleurs, Nicolas Sarkozy ne l'avait pas caché. Je pense que cette loi LRU et ensuite toute la politique de Valérie Pécresse est une politique anti-68. Enfin, et donc je pense que la résistance du mouvement actuel est une sorte de retour à l'esprit de mai, c'est-à-dire cette volonté justement d'inventer un langage nouveau, de faire des manifestations un peu moins sinistres que d'habitude, d'avoir un projet un peu plus mobilisateur et surtout cette sorte d'unanimité qui est quand même assez étonnante parce que c'est quand même la première fois que les enseignants, qu'ils soient assistants, athères, doctorants ou professeurs, se retrouvent dans les mêmes cortèges. Enfin, moi, j'ai jamais vécu ça depuis que je suis dans l'enseignement supérieur. Donc, je crois quand même que là, c'est une rupture. C'est évidemment très différent de 68 puisque les étudiants sont moins en avant. Mais il y a quand même, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression, puisque j'étais pas tout à fait étudiant, mais presque en 68, de revivre ce que j'ai vécu il y a 40 ans.
Alors, Jean-Philippe Le Guin, bonjour. Vous êtes, je l'ai dit, de la Cité des Mémoires étudiantes, un lieu qui doit s'installer à Reims, qui devrait s'installer à Reims, peut-être, on va en parler justement un peu plus tard dans cette émission, qui a pour mission de conserver justement témoignages enregistrés, écrits, sonores, vidéos, photographiques, etc., sur tous les mouvements étudiants depuis le début du XXe siècle. J'ai dit depuis le début du siècle, j'ai presque oublié qu'on était au XXIe siècle, donc depuis au moins 1900, la création justement de tous ces syndicats étudiants, de ces organisations étudiantes qui peuplent nos universités. Alors, même chose, même question qu'à Daniel Tartakovsky et Christophe Charles. Quand vous voyez le mouvement tel qu'il s'est créé depuis 5 ou 6 semaines maintenant dans la plupart des universités françaises, en quoi diffère-t-il 6 semaines, 7 semaines, me fait signe Anaïs Kien, le temps passe si vite, 7 semaines, donc depuis le début du mois de février, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui change et en quoi est-il différent? Est-ce que ce que vient de dire Christophe Charles en particulier sur cette mobilisation commune des professeurs, des assistants, des chercheurs et des étudiants est si nouveau que cela?
Ben, disons que c'est nouveau dans le contexte des dernières années. Et c'est vrai que c'est intéressant, puisque ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même, il y a eu déjà un mouvement contre la LRU, mais il y a un peu plus d'un an, et qu'en fait, là, c'était plutôt les étudiants et pas forcément unanimes qui étaient mobilisés contre la LRU. Et là, maintenant, il y a à peu près toutes les composantes de la communauté universitaire, que ce soit les personnels non enseignants, les étudiants, les enseignants-chercheurs. Alors effectivement, les étudiants sont pas encore totalement mobilisés dans le mouvement, et je pense que ça sera une donnée de la suite du mouvement, mais en tout cas, c'est vraiment un mouvement qui mobilise très largement.
Brièvement, Daniel Tartakovsky.
Oui, brièvement, je voudrais insister sur ce qui est peut-être une similitude ou une différence avec les 68, c'est qu'on ignore trop que ce qui se passe en France en ce moment se passe dans énormément de pays étrangers. À peu près tous nos collègues qui reviennent de missions dans les pays étrangers nous parlent d'universités en grève dans énormément d'universités dans le monde sur ces mêmes questions.
Oui, et certains blogs se disent que, par exemple, l'envoi de certains chercheurs momentanément pour faire des études, je sais pas, en Catalogne ou pour aller donner une conférence, et bien immédiatement dès qu'ils reviennent, et bien il y a à nouveau quelque chose qui est en train de se passer.
Comme si
les grandes plaisanteries, effectivement, ce sont les Français qui forcément mettraient le feu dans les universités étrangères, ce qui n'est pas tout à fait évident. Alors, Pierrine Carvan, on parle depuis le début de cette émission de cette fameuse LRU. Alors cette LRU, c'est quoi exactement?
Alors exactement, je vais
on va essayer d'être clair. Parce que tout de même, une des raisons d'une émission comme celle-ci, c'est de se demander pourquoi, et on y viendra peut-être un peu plus tard, pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps, chez nous mais ailleurs également, pour qu'on comprenne il y a quelque chose qui était en train de se créer dans les universités, surtout qu'on comprenne, on démêle un peu cet écheveau complexe, enseignants-chercheurs, masterisation, LRU, et tout ce qu'il y a autour, de termes qui sont extrêmement compliqués et quelquefois un peu barbares, qu'on ne comprend pas facilement. Perrine Carvran.
Donc la LRU, déjà, il faut savoir que c'est donc la loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Donc déjà, ça, on voit un peu vers où on s'engage. C'est intéressant aussi de voir que c'est une loi qui a été votée en plein été, en août. C'est toujours quelque chose qu'il faut noter, c'est généralement mauvais signe, et qui vise donc à l'autonomie des universités. Donc les principes, c'est une gestion du budget par les universités, du budget y compris la masse salariale, sachant que donc la loi Faure qu'on a évoquée tout à l'heure avait porté cette autonomie à 25% du budget, et là ce sera vraiment 100%, donc l'intégralité du budget, et une gestion également des ressources humaines par les universités, y compris donc les embauches, les promotions, etc. Et puis la possibilité de devenir propriétaire de leurs biens immobiliers si elles en font la demande, ce qui donc sous-entend qu'on peut louer effectivement ces biens immobiliers ou les utiliser d'autres manières. Et cette réforme, à partir du moment où elle se met en marche pour l'université, doit se faire en 5 ans. Donc c'est faux.
Un peu rapidement.
Faut y aller. Et puis l'idée donc pour le gouvernement, l'idée était de rendre les universités attractives, donc dans l'idée qu'elles ne l'étaient pas,
de rendre les faire entrer dans le classement de Shanghai, le fameux classement international supposé qui est très controversé, mais
voilà,
qui au moins
qui est très controversé, d'autant plus que en fait les institutions sont classées selon un nombre restreint de critères. En gros, la publication dans les revues scientifiques, mais en fait pas dans les revues scientifiques, dans deux revues scientifiques, et principalement des revues de sciences dures, et également le nombre de prix Nobel attribués aux élèves ou aux équipes pédagogiques. Donc même les créateurs du classement eux-mêmes sont d'accord pour dire que c'est un classement assez controversé. Donc les faire entrer effectivement dans le classement de Shanghai et de rendre l'université compétitive et surtout visible de l'étranger. Donc de réduire les intermédiaires pour simplifier et accélérer les décisions et faire entrer la culture de la réussite et le principe de l'évaluation dans l'université.
Alors on va réduire au conseil d'administration le nombre de membres, on passe de 60 à 20 ou 30 membres, il y a plus de personnalités extérieures, de collectivités locales qui vont rentrer, moins de représentants du monde socio-économique et donc évidemment ça change un peu la façon dont vont être gérées ces nouvelles entreprises, j'allais dire presque des entreprises.
Ces nouvelles universités,
et donc avec un président qui va avoir beaucoup plus de pouvoir qu'il en avait auparavant.
Voilà, donc le président a beaucoup plus de pouvoir, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les décisions se prenaient avec les conseils scientifiques et le conseil des études et de la vie universitaire, qui sont désormais consultatifs, donc ils ne participent plus aux décisions, et il faut savoir que dans chaque décision, le président, qui a effectivement des nouveaux pouvoirs, en tout cas pour ce qui est des embauches, a une possibilité de veto, c'est-à-dire sa décision est définitive, quoi. Donc les conditions d'élection du président changent, il est élu par les membres élus du conseil d'administration à la majorité absolue, il n'est plus élu par les trois conseils et finalement son mandat, s'il est plus court, peut être renouvelé et il n'est plus nécessairement enseignant-chercheur, c'est-à-dire que ça peut être des personnalités diverses.
Alors ensuite les universités peuvent fusionner, on a vu qu'il y en avait 20 qui étaient devenues autonomes au 1er janvier 2009, que par exemple l'université de Strasbourg était devenue la plus grande des universités de France en fusionnant ces trois universités, et donc on voit bien la toile de fond de ce qui se dessine. Christophe Charles, vous devez rester peu de temps avec nous au téléphone encore. Vous aviez écrit avec l'association dont vous êtes membre, la Réserve, vous aviez écrit donc les ravages de la normalisation universitaire en Europe et de façon un peu plus large, même quasiment mondiale, avec des critères qui s'imposaient presque naturellement. On sait ce qu'il en est en histoire. Quand les critères s'imposent naturellement, c'est que souvent ils ont une dominante culturelle ou une volonté culturelle derrière qui s'affiche ou politique. Et est-ce que justement cette nouvelle loi LRU, quand vous la regardez, rentre par rapport aux travaux que vous aviez fait il y a un ou deux ans autour de cette normalisation universitaire, rentre dans cette logique justement de comparaison dont on parlait, puisque déjà en 1968 on parlait de comparer avec les universités anglaises et les taux de réussite des universités anglaises. On voit bien qu'il y a toujours cette idée d'aller chercher ailleurs des idées qui sont différentes.
Oui, mais ça c'est une constante de la France, elle s'est pas inventé ses propres universités, il faut qu'elle essaye de les modeler sur des modèles étrangers, donc évidemment ça marche jamais, mais ça on recommence régulièrement à chaque génération. Après 1870 c'était l'Allemagne, après 1950 c'était l'Amérique, et maintenant c'est de nouveau l'Amérique, donc c'est une constante, mais ça prouve surtout le manque d'imagination des gouvernements. Le deuxième point, effectivement, cette normalisation, c'est pas simplement parce qu'il y a la compétition internationale, c'est parce qu'il y a un enjeu économique, c'est-à-dire on considère que les universités doivent être des entreprises de formation, comme seraient des écoles de commerciales, et on considère aussi que les universités sont des outils de production de savoir qui pourra avoir des applications, donc c'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Donc il faut que tout ça soit rentabilisé et que les ressources soient le mieux employées, en tout cas avec une sorte de contrôle de gestion, exactement comme le ferait un entrepreneur qui investit. Donc on voit très bien que l'État s'est aligné complètement sur une logique d'entrepreneuriat et a complètement abandonné, enfin en tout cas laissé vraiment de côté ce qui était l'autre fonction de l'université, qui était une fonction culturelle et une fonction de formation désintéressée, pas uniquement avec un but mercantile. Donc c'est vraiment une philosophie tout à fait nouvelle de l'université, directement inspirée des entreprises.
Mais est-ce que justement, ça n'est pas néanmoins dans un contexte de crise, je vais faire l'avocat du diable, mais un peu absolument naturel que d'imaginer peut-être, naturel on sait ce que ça veut dire aussi, ça n'est pas un terme à utiliser, mais disons ça paraît logique en tous les cas de se dire eh bien il vaut mieux que les universités forment des gens qui trouvent du travail plutôt que des chercheurs dans la gratuité de la recherche. C'est ce que, là je reprends le discours présidentiel du 22 janvier je crois.
Oui, non, tout à fait. Simplement, comme les entreprises elles-mêmes savent pas dans 2 ans ce qu'elles auront à proposer comme emploi, je pense que c'est pas les universités qui vont pouvoir le deviner, puisque les chefs d'entreprise eux-mêmes sont dans le brouillard. Donc, vouloir absolument s'adapter au jour le jour à ce que sont les besoins de l'économie, ça donne ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire qu'on a formé il y a 2 ans des gens pour faire du trading ou de la banque, et bien sûr, en ce moment, ils auront un petit peu des problèmes d'emploi. Donc, en fait, il y a aussi un décalage entre la formation universitaire, qui est une formation quand même relativement longue, et puis l'adaptation au jour le jour, qui peut pas se faire en permanence. Donc je crois qu'il faut aussi maintenir une polyvalence de la formation, sinon on risque justement en situation de crise d'être à contre-pied, parce que ce qu'on avait prévu comme situation n'est pas celle qui a eu lieu. Or en ce moment, je ne sais pas s'il y a un seul gouvernement qui sait si dans 2 ans, ça sera tel type d'emploi ou tel autre qui va se développer. Donc
une difficulté, parce qu'on est dans une émission d'histoire et de sciences humaines, avec une difficulté pour les disciplines des sciences humaines en particulier. Évidemment, la rentabilité immédiate des sciences humaines et de l'histoire n'est pas particulièrement évidente.
Si ce sont surtout ces domaines qui sont les plus mobilisés, c'est bien entendu parce que ce sont ceux qui rentrent le moins bien dans ces logiques. En fait, le droit, l'économie, la gestion étaient déjà très largement dans ces logiques.
Et pourtant, ils ont été mobilisés aussi dans le mouvement.
Ils sont mobilisés parce qu'il y a ce problème du pouvoir à l'intérieur de l'université, c'est-à-dire cette concentration du pouvoir au sommet qui est quand même une atteinte à l'autonomie des enseignants et une atteinte aussi à la tradition qui était quand même qu'on était dans un fonctionnement collégial. Et aussi géniaux que soient tous nos présidents d'université, on peut pas imaginer qu'ils ont la capacité de dominer l'ensemble de l'encyclopédie du savoir, c'est-à-dire en gros ce que c'est qu'une université. Donc il y a quand même un soupçon d'autorité qui va être imposé d'en haut sans concertation, et ça choque même des catégories de disciplines qui se sentent pas menacées par la nouvelle logique parce qu'elles y sont déjà pleinement. Mais en sciences humaines, il y a le double problème, donc cette philosophie générale de la loi et le fait que c'est vrai que c'est les disciplines qui rentrent le moins bien dans ce chausse-pied qui est imposé d'en haut.
Merci Christophe Charles, nous vous laissons repartir vers d'autres horizons et je continue avec Daniel Tartakovsky. Il y a aussi peut-être autre chose qui entre en ligne de compte, Daniel Tartakovsky, c'est la distinction, la différence entre les universités elles-mêmes, leur entre guillemets image ou leur réputation. Vous êtes à Paris 8, Christophe Charles qui vient de parler est de Paris 1, quelquefois on se dit concurrence déjà très forte entre les universités, on ne parle pas du même lieu, du même endroit et de la même façon lorsqu'on est à un endroit ou à un autre, lorsqu'on est à Saint-Denis, Ville-Tanneuse ou à Paris 1, centre entre guillemets de l'excellence de l'université française, je ne sais pas.
Tout ça est vrai, mais en ce moment on est tous ensemble en même temps dans la rue et par conséquent...
Vous voulez dire qu'il ne faut pas, attiser les feux.
Non, je ne veux pas dire ça du tout. Je veux dire que c'est vrai que ces lois paraissent quelquefois un peu difficiles à saisir par qui n'est pas au cœur du mouvement, mais je crois qu'avec cette loi, on a finalement un très bel exemple de phénomènes qui sont des phénomènes beaucoup plus généraux. Je parlais de l'échelle mondiale, mais à l'échelle nationale, on a un très bel exemple de ce qui se veut une nouvelle gestion publique des services publics. Et de ce point de vue-là, il y a de très fortes convergences, non seulement entre une université comme la mienne et Paris 1, mais je crois entre les universités en lutte et d'autres secteurs qui sont en lutte en ce moment. On a finalement un État actionnaire qui se conduit comme un État actionnaire, il continue à financer, mais il finance comme des actionnaires financent une entreprise, qui pilote à distance une université-entreprise. Et on est dans un monde où les mots n'ont plus de sens, ou plus précisément, on fait dire aux mots ce qu'ils ne disent pas. Liberté, responsabilité, nous n'avons jamais été aussi peu libres de prendre des décisions au sein des universités. Autonomie, il s'agit en fait d'un dirigisme bureaucratique qui explique la très grande unanimité des forces en mouvement, effectivement, Christophe Charles parlait de secteurs avec lesquels nous n'avions pas l'habitude de mobiliser. Il y a de très grandes convergences, non seulement entre universitaires, mais entre tous les secteurs de la fonction publique, parce que c'est une loi qui met à mal les services publics tels qu'ils se sont construits dans notre pays.
Alors, les pieds sur terre reviennent sur ces questions-là, sont revenus sur ces questions-là toute la semaine avec des reportages d'Amaury Chardot. Vous en avez sélectionné un, Anaïs Quien, un extrait. Donc,
un extrait de la manifestation du 5 mars.
On l'écoute.
Vous êtes combien de votre labo d'histoire là, aujourd'hui?
Pour l'instant, c'est dur de se chiffrer puisqu'en fait, on est un peu tous dispersés. Je pense qu'on doit être au moins une bonne soixantaine, ce qui pour un labo d'histoire est pas mal. Vraiment, cette fois-ci, on a réussi à faire l'unité, ça bouge dans toutes les facs de France. Tout le monde est contre ces réformes. On espère être entendu.
Contrairement justement à l'année dernière, aujourd'hui c'est surtout les profs d'université, les maîtres de conférences, les titulaires qui mènent le mouvement. Nicolas Sarkozy, il avait bien dit au moment de sa campagne présidentielle que l'État n'avait pas financé les personnes qui voulaient faire des études de lettres classiques. Et je pense que par là, il voulait dire lettres classiques, histoire médiévale, toutes ces choses, toute cette connaissance qui ne sert à rien et qui n'est pas rentable. Et donc, je pense que la réforme de l'université, aujourd'hui, consiste largement à liquider toute cette partie de la connaissance qui est financée aujourd'hui par l'État, par le service public, et qui coûte trop cher aux yeux de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, pour lui, recherche égale innovation. Et donc, tout ce qui n'est pas recherche rentable ne mérite pas d'être financé par l'État, par le contribuable. C'est ce qu'il a dit de manière très, très méprisante lors de son discours.
Plus de chercheurs, moins de traders. Plus de chercheurs, moins de traders. Plus de chercheurs.
Cet après-midi, donc, dans Les Pieds sur Terre, un nouvel épisode de ces reportages et documentaires sonores, donc, autour du mouvement des universités. Ça sera donc à 13h30 dans Les Pieds sur Terre. Alors, quand on écoute ces mobilisations, l'écho de ces mobilisations, Dania Tartakovsky et Jean-Philippe Legoire, on se dit, il y a là quelque chose d'un peu original. On y viendra tout à l'heure, mais effectivement, une des particularités, c'est la multiplicité, c'est le foisonnement, et on a l'impression que on n'est plus à une époque de mots d'ordre unique, mais au contraire de multiplicité des mots d'ordre.
Ben, on est dans la prise en charge originale d'objectifs qui sont quand même des objectifs communs et bien résumé par quelques mots d'ordre simple.
On pourrait parler tout à l'heure, on en parlera peut-être, de votre présence au Salon du Livre, c'était la semaine dernière. Alors, Séverine Liata, vous êtes avec nous pour évoquer un deuxième point de cette mobilisation universitaire, c'est le statut des enseignants-chercheurs et sa réforme donc prévue et proposée en tous les cas, et pour l'instant qui s'amende de jour en jour par des discussions successives, qui est réécrite depuis au moins deux semaines, si ce n'est trois.
Alors voilà, pour un peu faire le point, les universitaires sont aujourd'hui sous le régime du décret de 1984, ils sont donc recrutés par des commissions locales de spécialistes sur des postes de maître de conférence et de professeur lorsqu'ils ont été qualifiés pour postuler à ces postes par le Conseil National des Universités, donc le CNU, qui est composé de deux tiers d'élus et d'un tiers nommé par le ministère pour 4 ans. Les maîtres de conférence et professeurs d'université sont donc actuellement évalués de manière formelle au moment des avancements de classe ou lorsque, par exemple, un maître de conférence veut devenir professeur.
Ça, c'est la gradation universitaire classique.
Voilà, et donc ils sont évalués par le CNU, mais la moitié de ces promotions se font quand même sur proposition de l'université. Alors, le projet de réforme actuel veut soumettre donc les enseignants-chercheurs à une évaluation tous les 4 ans sur la base d'un dossier permettant d'apprécier l'ensemble de leurs activités, c'est-à-dire enseignement, recherche, travail administratif. Mmh. Et c'est toujours le CNU qui est chargé du volet d'évaluation, mais ce sont les présidents d'université qui vont décider de ces promotions. Donc on revient sur ce pouvoir accru en fait des présidents d'université. Alors ces présidents d'université décideront de l'organisation de leurs services, c'est-à-dire la répartition entre recherche, enseignement et administration. Hein, ça devient du ressort du président de l'université. Le temps annuel d'enseignement reste le même pour les enseignants, soit 128 heures de cours par an ou 192 heures de TD ou TP.
Travaux dirigés,
travaux pratiques. Et donc, les opposants à cette réforme craignent plusieurs choses. Tout d'abord, le localisme, le clientélisme, puisque le pouvoir des présidents d'université est considérablement élargi. Une évaluation classification qui est établie sur des bases bibliométriques rudimentaires. On en a parlé à propos des revues la semaine dernière. Et que soit privilégié l'administratif et l'enseignement au détriment de la recherche. Et le discours de Sarkozy du 22 janvier, lors duquel il a notamment traité les enseignants-chercheurs de paresseux et énoncé la nécessité primordiale d'une évaluation des universités et des universitaires, a évidemment mis le feu aux poudres.
Vous êtes sûr qu'il a vraiment dit ou qu'il a laissé entendre?
Il a laissé entendre.
Il n'a pas dit que les universitaires étaient paresseux, mais effectivement, il y avait la question de la comparaison avec la Grande-Bretagne.
Et donc, si les enseignants-chercheurs sont favorables à l'évaluation, ils tiennent quand même à préciser qu'ils sont déjà constamment évalués lors de leur recrutement. Leurs dossiers sont auscultés à la loupe. Les laboratoires de recherche auxquels ils sont rattachés sont également évalués. À chaque fois qu'ils publient un article ou qu'ils participent à un colloque, on peut considérer aussi qu'ils sont évalués, ou lorsque même ils proposent un projet collectif
de recherche.
Donc face à la contestation, ce projet de réforme du statut des chercheurs enseignants est en phase de réécriture, on le disait, en concertation avec le SGEN CFDT, Autonome SUP, Force Ouvrière, SUP Recherche, mais par contre le SNES SUP FSU, lui, qui est la principale organisation quand même, a refusé de participer aux séances de négociation. Donc je suis allée sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui publie en ce moment, les grandes lignes du nouveau décret sur le statut des chercheurs enseignants. Donc sur le papier, sont réaffirmées l'indépendance et la liberté des enseignants-chercheurs, des garanties de transparence sont apportées, la modulation de service ne pourra pas être mise en œuvre sans l'accord de l'intéressé, mais l'évaluation tous les 4 ans est maintenue, concernera toutes les activités des enseignants-chercheurs, et il est précisé plus loin que ces résultats interviendront pour les décisions de promotion et pour la politique indemnitaire. Il semble donc, et on a cessé d'en parler dans cette émission, qu'il y a vraiment une logique de comptabilité qui préside ce projet de réforme, en donnant à voir finalement une conception mercantile du savoir qui est un peu étrangère, a priori, au monde des chercheurs enseignants. Et qui plus est, il semble que le texte divise le milieu universitaire au niveau même de l'organisation d'université, en instaurant un climat de concurrence entre enseignants-chercheurs et en se fondant sur le principe du résultat immédiat et quantifiable.
Alors Daniel Tartakovsky, tout de même, si on reprend cette question de ce texte en particulier sur ce décret sur les enseignants-chercheurs, on veut combattre, dit-on, le localisme, le clientélisme, et le localisme et le clientélisme, il est quand même aussi au cœur quelquefois, on a assez souvent ici, hors micro évidemment, des chercheurs ou des enseignants qui nous disent, mais alors un tel n'a pas été recruté pour ses qualités propres, il a été recruté parce que il fallait que dans tel endroit, on privilégie un candidat local. Il y a déjà des choses qui se passent de ce type-là, en tous les cas, et qui sont fortement critiquées en interne, mais qui ne sortent jamais en dehors des petits cercles de ceux qui s'y intéressent. Cette question de qui recrute qui, est-ce que c'est le meilleur qui à chaque fois est privilégié, ou est-ce que c'est le candidat qui arrange le mieux une institution, un lieu à un moment donné, ce sont des questions qui se posent quotidiennement avec des gens qui restent sur le carreau, bien qu'ayant fait un excellent parcours de recherche et professionnel.
Ce sont des questions qui se posent, mais je crois qu'il convient, je m'excuse d'élever le débat, je sais qu'ici on l'élève toujours, dans une situation malthusienne, il faut bien en choisir un. Et au bout d'un moment, quand on est sur un poste en histoire contemporaine, qu'on voit arriver 80 candidats, et je peux vous dire que sur les 80 candidats pour un poste, il y en a 30 qui sont bien meilleurs que ce qu'on était à leur âge.
Bah,
il faut en choisir un sur les 30. Ouais. Alors à partir de là, il n'y a pas de bonne solution. Donc on peut toujours accuser Pierre, Paul ou Jacques d'avoir défendu un tel ou un tel pour de mauvaises raisons, mais toutes les raisons seront mauvaises. La question, c'est l'absence de poste, et une absence de poste qui va être aggravée par les dispositions actuelles.
D'accord, on comprend bien. Jean-Philippe Legoy.
Absolument. Alors par contre, il y a quand même une petite arnaque intellectuelle dans tout cela, c'est-à-dire que la loi, institutionnalise effectivement des fonctionnements qui peuvent être dénoncés par-ci par-là, mais n'empêche que le discours idéologique qui est derrière, c'est quand même toujours de parler d'autonomie, alors que ce n'est pas une réelle autonomie, parce qu'effectivement, comme dit Daniel, s'il n'y a pas de moyens, les pouvoirs universitaires sont dépendants des pouvoirs économiques locaux ou des pouvoirs d'État qui financent plus ou moins les choses, et donc c'est une autonomie tronquée. Et puis d'autre part, même si la collégialité peut être discutée, on peut dire qu'effectivement dans les commissions il y a peut-être des choses et d'autres, mais n'empêche, c'est un lieu de rapport de force, donc il y a une collégialité, tandis que là maintenant ça sera le pouvoir d'un seul. Donc c'est quand même un gros changement, et ça joue aussi pour les personnels non enseignants, hein, on en parlait, les personnels biatos, hein, c'est le mot, bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, etc. Et donc pour eux aussi ça se joue comme ça, où on essaye d'écarter la collégialité des discussions, qui est très importante.
Alors troisième point sur lequel évidemment se mobilisent les enseignants, les chercheurs, les étudiants, les professeurs, les maîtres assistants et autres, la question de la masterisation, un terme qui, d'après beaucoup, n'a peut-être pas été très bien choisi parce qu'il est assez incompréhensible si on ne le traduit pas d'une certaine façon, et qui, depuis le début, donc fait un peu écran à ce qu'il y a derrière cette masterisation, donc une réforme de la formation des enseignants, donc qui va toucher effectivement tous ceux qui se sont engagés aujourd'hui dans ce choix de l'enseignement, Anaïs Quien.
Dans un choix de carrière d'enseignement dans le premier ou dans le second degré. On entendait tout à l'heure un extrait de la manifestation du 5 février. Je me suis trompée de date, pardonnez-moi.
Ce n'est pas très grave.
Donc hier, à la manifestation à laquelle j'ai assisté, on entendait effectivement plus de chercheurs, moins de traders, mais à côté de ce slogan, on entendait aussi la masterisation nuit gravement à la pensée. Alors qu'est-ce que ce mot barbare de masterisation ? La masterisation répond à un constat, c'est que théoriquement, les concours de l'enseignement public sont accessibles aux titulaires d'un bac plus 3, c'est-à-dire une licence. Mais de fait, on constate qu'une majorité de candidats se présentent au concours au moins avec un bac plus 5, c'est-à-dire un ancien DEA, DESS ou aujourd'hui un master. Voilà, on y arrive. Donc cette réforme prétend revaloriser le statut des jeunes enseignants en tenant compte de leur niveau d'études réel et ainsi de répercuter ce niveau d'études sur les premiers niveaux de grille de salaire et sur les premiers échelons des enseignants du public. Fort bien. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qui pose problème dans cette proposition de masterisation ? Le premier, c'est la suppression de l'année de stage, donc un problème qui touche directement à la formation des enseignants. C'est-à-dire qu'à la suite d'une admission au concours, jusque-là, on avait une année avec un service allégé, avec une ou deux classes seulement, et un suivi pédagogique avec des formateurs IUFM qui suivaient et proposer des séminaires aux jeunes enseignants et un tuteur sur place qui leur permettait de réfléchir à leur pédagogie, à la construction de leurs cours, à une didactique et éventuellement, en cas de problème, les régler au cours de cette année d'apprentissage allégé afin de commencer en deuxième année directement avec un service plein cette fois-ci, en ayant eu une espèce d'année de ceinture de sécurité et de formation progressive. Alors, le deuxième problème, c'est que l'augmentation des salaires pour les premiers échelons des jeunes enseignants, c'est une bonne chose, certes, mais la masterisation, donc qui correspond à un bac plus 5, correspond aussi à un allongement de la durée d'études, puisque auparavant, donc la cinquième année d'études, qui était le stage, était rémunérée, ce qui ne serait plus le cas ici. Donc, il y a un constat aussi dans la dégradation des contenus des concours. C'est essentiellement ça qui est remis en cause aujourd'hui. Et pour le moment, les maquettes de ce master sont bloquées. Donc les suites de cette masterisation sont à suivre. Alors, même si s'il n'y a plus de concours, cependant, on peut peut-être noter qu'une bonne chose, c'est que le master valide un diplôme. C'est-à-dire que même si le candidat n'obtient pas son concours, il obtient un diplôme bac plus 5, ce qui n'existait pas avant. C'est une bonne chose, mais cependant, il y a quand même une crainte que les candidats non reçus forment un contingent de précaires qui seraient déclarés aptes à enseigner, mais recrutés directement par les établissements en tant que vacataires ou en tant que contractuels.
Oui, ce qui est déjà arrivé auparavant, mais néanmoins, néanmoins, sur ces questions de master et de cette maquette qu'il va falloir fabriquer, que la plupart des universités aujourd'hui disent qu'ils ne vont pas faire, et donc au bout du compte, il n'y aura pas, a priori, d'enseignement à partir du mois d'octobre, septembre-octobre prochain. Sur cette question de la masterisation, il y a aussi un autre point qui rentre en ligne de compte, Daniel Tartakovsky, c'est qu'on a oublié de dire, mais c'est tellement évident dans la France depuis un siècle ou deux, et on a oublié de dire que les universités ne sont pas seules à former des enseignants, il y a aussi les grandes écoles à former des chercheurs, il y a aussi les grandes écoles, et que ce projet, en particulier masterisation, joue sur les deux mamelles de l'enseignement et de la formation en France, c'est-à-dire d'un côté des grandes écoles excessivement sélectives, et de l'autre côté une université qui risque ou qui se voit devenir une université donc de moins en moins sélective, de moins en moins de recherche et de plus en plus donc de masse, pourrait-on dire, Daniel Tartakovsky.
Mais il y a cet aspect. Je crois que outre tout ce qui vient d'être dit et notamment ce problème que constitue la formation d'un vivier de précaires, ce projet présente un très grand risque au regard de ce qui a été une tradition française qui a été longtemps les passerelles entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Dans cette émission, vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a quantité de jeunes docteurs qui sont profs de lycée ou de jeunes doctorants qui continuent à faire des thèses. Certains passent dans le supérieur, d'autres n'y passent pas. Mais il est vrai qu'il y avait des passerelles possibles et que d'une certaine manière, les jeunes enseignants étaient des enseignants qui continuaient à garder des liens avec l'université. Et c'était une modalité de la formation permanente. Et je crois que c'était excellent et pour l'université et la recherche et pour l'enseignement secondaire. Le nouveau texte va totalement mettre à mal ces passages possibles. On nous parle d'un master recherche conservé, mais en pratique, il est impossible d'imaginer qu'un étudiant puisse, la même année, préparer un concours, faire quelques heures de stage qu'on vient de rajouter pour essayer de faire comme s'il y avait quand même des stages, et faire ce qui était la maîtrise ou ce qui est devenu le master, et qui était un véritable apprentissage. Tout à l'heure, on parlait de la difficulté pour des enseignants, pour des chercheurs en sciences humaines, pour des doctorants en sciences humaines, à trouver du travail. Le monde du travail reconnaissait que cette maîtrise devenue master d'histoire, cette initiation à la recherche, était extrêmement formatrice pour de tout autre secteur que la recherche en histoire. Et on est en train de nous casser un outil qui nous était très spécifique. Et c'est terrible.
Oui, et tout de même, je reviens sur la question d'origine avec vous, Daniel Tartakovsky. Il y a aussi le risque que, par exemple, la préparation de l'agrégation ne se fasse plus progressivement que dans les grandes écoles et que les universités n'aient plus la capacité, la possibilité d'entretenir pour un tout petit nombre d'étudiants des formations à l'agrégation, et que donc on se dirige vers une université qui formerait justement à ces nouveaux concours d'enseignement qui seraient distincts donc des concours anciens qui étaient CAPES agrégation, un nouveau CAPES donc transformé et pour justement des enseignants du primaire en particulier, et de l'autre côté donc une sélection plus grande qui serait faite par les grandes écoles pour préparer au concours de l'agrégation.
Oui, je suis navré de ne pas avoir répondu à la question initiale. Je crois effectivement que ça fait partie de ce grand écart. On ne circulera plus du tout d'un secteur à un autre, et on ne voit pas, à part quelques très grandes universités, Paris 1, Paris 4, non mais grandes du point de vue de la taille, oui. Lille et Marseille, quantitativement, je ne parle pas de la qualité, mais quantitativement, on ne voit pas quelles sont les universités qui seront en position de pouvoir préparer seules le concours d'agrégation.
Alors, on a dit qu'on parlerait aussi des mobilisations, des formes de mobilisation. Un exemple donc qui vient de chez vous, de Paris 8, cet ultimatum après donc 6 semaines de grève et un nouveau type de mobilisation, ça s'appelle la ronde infinie des obstinés. On va écouter ce que c'est.
Quoi ce bordel ?
Ultimatum du 16 mars 2009. Nous,
enseignants-chercheurs, étudiants et personnels viatos en grève depuis le 2 février 2009,
lançons solennellement un ultimatum au ministre Valérie Pécresse et Xavier Darcos.
Nous exigeons, ainsi que le demande depuis 6 semaines la Coordination nationale des universités, le retrait de la loi LRU et du pacte de recherche, comme des mesures qui en découlent.
le retrait du projet de décret concernant les enseignants-chercheurs, y compris dans sa dernière version.
Le retrait du projet de réforme de la formation et du recrutement des enseignants des écoles, collèges et lycées. Le retrait des suppressions de postes statutaires à l'université, et ce, dès 2009.
Retrait du projet de contrat doctoral unique.
L'arrêt du démantèlement des organismes de recherche.
Ainsi que le retrait de la réforme d'allocation des moyens financiers fondée sur une prétendue performance.
Ces retraits sont pour nous un préalable pour pouvoir engager une véritable discussion et confrontation dans une démarche d'états généraux des universités à mener en toute indépendance et qui prenne en compte l'ensemble des revendications portées par la mobilisation actuelle. Si dans une semaine, soit le lundi 23 mars à midi, le gouvernement n'a pas pris en compte ces revendications, nous marcherons en place de grève jour et nuit.
Nous tournerons jour et nuit pour manifester notre obstination. Nous marcherons sans fin car nous n'avons aucune intention de céder. En place de grève, ici même donc, nous appellerons à la ronde infinie des obstinés, tous les personnels de l'éducation nationale, tous les étudiants, lycéens, les parents d'élèves, et aussi tous les citoyens solidaires à nous rejoindre à toute heure.
Voilà, donc à partir de lundi, théoriquement, si il n'y a pas de décision gouvernementale, et on ne voit pas comment elle pourrait intervenir d'ici lundi, en tous les cas, commencerait donc cette ronde infinie des obstinés, décidée en particulier par les universitaires de Paris 8, qui, je pense, ne pensent pas être tout seuls pour la faire, cette ronde, parce que ça pourrait tourner court. Et nous sommes avec vous, Isabelle Launay, vous êtes aussi professeur à Paris 8, comme Daniel Tatakowski, donc à Saint-Denis, à l'UFR d'art, en histoire et esthétique de la danse. On voulait venir justement sur les innovations de cette mobilisation, les grèves, les cours hors les murs, les initiatives qui sont prises un peu partout dans toutes les universités françaises, et on ne parle que de Paris, mais il faudrait aussi évoquer d'autres universités comme Toulouse, comme Rennes, comme Montpellier, qui ont pris des initiatives dans ce sens, pour pouvoir justement faire tomber aussi peut-être les barrières entre la ville et les universités, et puis faire sauter quelques images négatives justement du côté des citoyens qui ne sont pas proches de l'université vis-à-vis de ces chercheurs ou de ces enseignants, Isabelle Launay.
Oui, bonjour. Oui, toute la question aujourd'hui pour nous en mouvement, c'est bien de faire vivre la grève. Donc ça fait maintenant 6 semaines qu'on est en grève, plus de 6 semaines, à raison d'une manifestation hebdomadaire par semaine qui regroupe énormément d'enseignants-chercheurs et d'étudiants et aussi de personnel d'IATOS. Visiblement, le gouvernement n'entend rien et ne veut rien entendre. Il a mis en place cette machine de guerre contre l'exercice de la pensée critique, entre autres, et c'est pour ça que les sciences humaines, mais pas seulement elles, sont particulièrement mobilisées, parce qu'elles ne veulent pas de cette compétition à outrance, de ces Jeux olympiques de la recherche et d'être sous la hantise de la recette, ce qui nous semble être contraire complètement au sens même de notre métier de chercheur et d'enseignant. Donc il s'agit de faire vivre la grève.
Et pour la faire vivre, donc de trouver des moyens alternatifs à ceux qu'on a d'habitude, c'est-à-dire pas seulement la manifestation, pas seulement l'occupation de locaux, mais oui, également de trouver des formes qui, on pourrait dire, plus festives peut-être aussi.
Alors, je ne dirais pas plus festive, je dirais plus grave et plus sérieuse encore. Bien que ces modalités de ronde dont je vais vous parler, en tout cas, ne seront pas évidemment, seront ponctuées de moments festifs. Mais pour faire vivre la grève et pour que les manifestations à venir soient peut-être encore plus importantes, donc il y a effectivement plein de modalités d'action aujourd'hui. Je pourrais vous en citer plusieurs. Il y a eu des manifestations éclairs qui vont d'abord du cri ponctuel d'un professeur en amphi qui régulièrement régulièrement ponctue son cours d'un cri à la fois vengeur et alarmant. Il y a eu aussi des flash mobs, ce qui sans doute est l'héritage des activismes américains, mais en tout cas
les flash, la démobilisation instantanée où les gens s'arrêtent pendant un certain temps, une minute quelquefois, dans un endroit précis oui. pour pouvoir justement montrer leur
tout
opposition
à
un projet.
Ou lire un texte comme ça s'est fait à l'initiative du département art plastique à Saint-Michel, mais il y a eu aussi à la Sorbonne des chaînes protectrices, des chaînes humaines où les gens donc entourent un bâtiment pendant un temps donné. Il y a aussi eu des actions ponctuelles d'une journée, en particulier, en tout cas sur Paris 8, l'UFRA a fait une journée au 104 où il y a eu une AG, des débats, des projections, des transmissions de gestes où s'étaient mêlés les habitants aussi du quartier de la Villette. Il y a eu aussi la balade des inutiles à l'initiative des philosophes, entre autres de Paris 8, qui ont donc lors de cette balade dans Paris sur des stations spécifiques, notamment le Collège de France, l'Assemblée nationale, mais aussi les PUF, les anciens PUF, donc ont déclamé une déclaration d'indépendance des universités, ont lu des textes, ont collé de nouveaux slogans, et puis ont mis aux enchères des concepts philosophiques, soit précieux, soit galvaudés.
Lequel l'a emporté dans les enchères, alors?
Donc il y en a eu beaucoup, le concept d'individu, le concept de travail, etc. Enfin, tout ça a été discuté. Il y a eu aussi le procès de Valérie Pécresse qui a été fait place de la Sorbonne. Enfin, bref, l'essentiel est de faire vivre cette grève. Oui. Et là, donc, il y a aussi en ce moment un piquet de grève permanent que pris en relais par différentes universités. Et nous appelons à cette ronde
Place de grève à Paris.
Je
voulais juste avoir la réaction de Jean-Philippe Legoix, puisque vous avez travaillé sur les mobilisations du mouvement étudiant. Justement, cette créativité, moi j'ai mal utilisé le terme, visiblement, faut pas dire festif, mais donc il faut dire créatif, cette créativité de la grève, justement.
Ah ben cette inventivité, oui, c'est vrai que on la retrouve dans d'autres périodes, dans d'autres mouvements étudiants, mais là ce qui est intéressant, c'est...
Et avec la grève active, avec aussi des professeurs qui continuent à donner cours, mais des cours différents en fonction du contexte.
Oui, même,
etc.
C'est vrai que dans
la presse... La Sorbonne, il y a le Paris des Polonais, une visite conférence qui est prévue à 14h. Il y a aussi projection d'un entretien avec Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie, dans un amphi de la Sorbonne, etc., etc.
Là, ce qui est intéressant, c'est que ça se multiplie un peu dans toutes les disciplines, dans tous les domaines, et que c'est une créativité commune entre étudiants, enseignants et personnel non enseignant. C'est ça l'originalité.
Isabelle Launay, pour conclure.
Oui, écoutez, je ne peux que vous inviter à venir renforcer cette ronde dont la force va être de durer. C'est une action qui doit être lancinante et permanente jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction. Donc, à partir de midi, lundi 23. Donc, et nous sommes en attente d'autres universités qui ont déjà, qui se sont déjà inscrites
dans
cette ronde-là. Et nous sommes obstinés parce que c'est une des qualités essentielles, à mon avis, de tout enseignant-chercheur aujourd'hui.
Merci. Merci, Isabelle Launay. Tout de même, cette obstination ne plaît pas toujours au pouvoir en place, en particulier à Xavier Darcos, qui, dans Le Monde avant-hier, a donc expliqué qu'il y avait beaucoup d'excès de passion pour une profession qui, normalement, était une profession dans laquelle la raison devait dominer et qui n'a pas beaucoup apprécié, en particulier le procès fait donc en place de Sorbonne, c'était la semaine dernière, donc de Nicolas Sarkozy et de Valérie Pécresse, disant que la typographie officielle de la Sorbonne ne devait pas être utilisé pour publier des tracts parodiques appelant au procès de la présidente de la République, du président de la République, parce que effectivement c'est la représentation du peuple que l'on bafoue, dit-il dans son papier du Monde d'avant-hier. Tout de même, cette mobilisation peut encore durer, vous pensez, ou est-ce qu'on est à un moment où ça commence à s'essouffler, Daniel Tartakovsky? Vous allez me dire que ça va durer, mais ça c'est votre optimisme révolutionnaire habituel, vous qui avez travaillé sur les mouvements révolutionnaires.
Si les hommes et les femmes qui nous gouvernent continuent à avoir des propos aussi percutants que ce dernier article et quelques discours précédents, ça nous aide incontestablement à faire durer la mobilisation.
Merci Dania Tartakovsky, merci Jean-Philippe Le Bois, et puis il faut tout de même dire, alors s'il y a quelque chose de très important, Jean-Philippe me met un petit mot sur le nez, que vous aviez donc théoriquement à Reims un projet de Cité des Mémoires étudiantes, il en est où ce projet?
Eh bien nous sommes en discussion actuellement avec le ministère, alors qu'il y a plein d'autres choses à négocier, mais nous aussi on est obstinés, et donc on continue à développer ce projet de Cité des Mémoires étudiantes. Vous pouvez signer les lettres ouvertes à Valérie Pécresse, une de plus, sur citedesmémoiresetudiantes.org.
Donc Cité des Mémoires étudiantes, rappelons-le, c'est un projet d'installation à Reims pour l'instant, ou peut-être ailleurs, on le sait, enfin là où on pourra trouver un endroit. En tous les cas, c'est prévu pour Reims, d'une cité, d'un endroit où seraient collectés, rassemblés toutes les écrits, les films, les émissions
les
radio,
archives,
les archives, donc voilà, des mouvements étudiants depuis
toutes les traces.
Un peu plus d'un siècle. Merci donc à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission spéciale autour de ce mouvement universitaire qui continue, et en particulier dans les universités d'histoire et de sciences humaines. À la technique aujourd'hui, Bruno Gagnère-Fontani, à la réalisation, Marie-Christine Closet. Notre numéro de téléphone, 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78. La semaine prochaine, nous traiterons des questions d'histoire, du passé comme réservoir d'histoire, avec comme invité lundi Jacques Malaterre.
France Culture, il est 10h, les humanités, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, les vendredis de la philosophie par François Noudelman.
Les vendredis de la philosophie, aujourd'hui, politique de l'imagination, une rencontre avec Georges Didier Huberman. Depuis son livre sur les photographies d'hystérique à la Salpêtrière, paru en 1982, jusqu'à son récent ouvrage sur Brecht, Georges Didier Huberman n'a cessé d'interroger des images, que ce soit des tableaux ou des documents historiques. En une trentaine de livres, il a profondément modifié le statut des objets imaginaires, au point que l'histoire de l'art et même la philosophie doivent avec lui repenser des notions aussi familières que celles d'imagination, de ressemblance ou d'incarnation. Après avoir commenté aussi bien Fra Angelico que de nombreux artistes contemporains, Georges Didier Huberman mène une réflexion sur la relation des images à leur époque, et plus particulièrement à la guerre. Car l'image ne relève pas seulement de l'espace, elle compose aussi avec le temps. Peut-on connaître l'histoire par les images, malgré le discrédit qui les touche? C'est dans leur dispositif visuel que se trouve la réponse, à la fois esthétique et politique. Georges Didier Huberman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un historien de l'art, mais aussi un philosophe. Alors j'ai envie de commencer, avant d'entrer peut-être dans votre dernier livre, « Quand les images prennent position », « L'œil de l'histoire », paru aux éditions de Minuit. J'ai envie de vous poser une question un peu brutale. Qu'est-ce que l'image ? Est-ce qu'on peut encore d'ailleurs poser cette question ontologique, qui n'a cessé de se poser depuis Socrate, hein, le « qu'est-ce que », mais jusqu'à Sartre ? Ou bien est-ce qu'on est passé aujourd'hui plutôt à une question du type « comment fonctionnent les images ?»
Alors, plus je vais, plus je m'éloigne de toute question ontologique sur les images. D'ailleurs, j'ai le coutume de dire les images, et si vous posez une question ontologique, vous poserez la question « qu'est-ce que l'image ?» Je ne crois absolument pas qu'existe l'image. Ça n'existe pas, tout simplement. Ne serait-ce que parce que vous pouvez pas dire le mot. Qu'est-ce que le mot? Parce que vous prononcez des phrases et que dans des phrases il y a toujours des mots. La question ontologique, c'est-à-dire par exemple le projet qui a été celui de Roland Barthes concernant l'image photographique. Ce projet ontologique, je m'en éloigne de plus en plus et je m'en méfie de plus en plus. Parce que, tout simplement, parler au singulier me mais pas seulement sur les images. Là, je travaille dans la suite de cet ouvrage sur Brecht. Je travaille sur la question, disons un autre aspect de la question politique. Et je m'aperçois que je suis incapable de dire le peuple, par exemple. Je ne peux dire que les peuples. Alors, ça n'empêche pas d'interroger, bien sûr, le monde sémantique, les fonctionnements, etc., autour de la question des images. Moi, je me suis mis à employer ce mot il y a longtemps, dans un contexte qui tendait plutôt à proscrire ce mot, puisque, disons, qui c'est qui disait image au moment où moi j'étais étudiant? Je veux dire, on disait, Bachelard disait image, par exemple, mais moi, quand j'ai fait mes études, Sartre aussi, bien sûr, on était dans une critique de ça. Alors, une critique, à mon avis, exagérée, c'est-à-dire dans le milieu structuraliste, par exemple, le mot image était tout à fait proscrit. J'y suis venu à travers l'histoire du mot, parce que c'est un mot extraordinaire. C'est un mot qui a une histoire compliquée, magnifique, l'imago romaine, les pratiques généalogiques.